Pour le moment, nous accueillons Cédric. Bonsoir Cédric.
Et bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Cédric et quel âge avez-vous ?
Alors, j'ai 45 ans dans deux jours oui. Et je vous appelle à côté de Lyon. J'habite dans l'Ain, à Villars-les-Dombes, c'est à 30 km au nord de Lyon.
D'accord, bah écoutez, par avance, comme dans deux jours nous ne serons pas là, bon anniversaire, mon cher, en avance. 45
merci.
Ans, c'est un bien bel âge. Qu'est-ce qui vous amène, Cédric, dites-moi.
Alors, ce qui m'amène, en fait, je voulais vous parler de Samuel Paty et de tout ce que ça a provoqué. Je suis mon enseignant, je suis prof d'histoire géo en collège.
Oui.
Donc, c'est quelque chose qui résonne en moi, à la fois en tant que personne, en tant que prof et en tant aussi que responsable syndical, puisque avec mon syndicat, on est amené à parfois avoir des remontées de choses qui, sans s'apparenter complètement à ça, hein, peuvent en relever, et notamment sur la façon dont l'éducation nationale gère son personnel. Quand il y a un problème, c'est ce qu'on appelle le fameux pas de vague, vous avez dû en entendre parler.
Oui, j'en ai entendu parler, mais pas de vague, en fait, ça traduit quoi, en fait, exactement ? Qu'est-ce que... parce qu'on ne vous le dit pas comme ça, on vous le dit comment ?
Non, ça s'est sorti sur les réseaux sociaux il y a quelques années, mais si vous voulez, là, pour revenir à Samuel Paty, parce qu'en fait, moi je suis prof d'histoire géo à peu près du même âge, parce que ce collègue, il aurait eu 48 ans en début d'année scolaire, il est originaire de la région Auvergne comme moi, enfin, je suis auvergnat d'origine, hein. Il a passé une partie de ses études à Lyon. Il a été affecté, comme souvent, hein, un jeune débutant professeur célibataire dans les académies parisiennes,
oui.
Avec des postes de remplaçant à tourner un peu dans plusieurs établissements, en Seine-et-Marne notamment, un peu comme moi. Donc, si vous voulez, ce qui est arrivé à ce collègue, au-delà de la fin et de son assassinat horrible, disons que ça fait écho à beaucoup de collègues de ma génération, et aussi bien de plus jeunes et de plus vieux, hein, mais disons qui ont connu un peu un parcours similaire et qui se disent peut-être que ce qui est arrivé à ce collègue, si moi, par le jeu des mutations, des affectations, je m'étais trouvé là, de par ma pratique et les cours que je fais, ces choses-là auraient pu arriver. Et la question est-ce que... Alors, il y a deux choses, hein. Il y a la réaction de l'administration et puis la menace islamiste, salafiste qui peut arriver. Mais bon, moi, ce qui me pose beaucoup de soucis, et c'est de cela dont je voulais parler ce soir,
oui.
C'est le fait que finalement, Samuel Paty, quand on regarde de plus près, si finalement l'administration de l'éducation nationale avait vraiment rempli son travail, eh bien, je pense qu'il serait encore là, puisqu'en fait, il y avait des moyens de stopper la rumeur très très vite et d'éviter l'emballement qui s'est fait derrière. Voilà.
Et vous
c'est
pensez,
là, on touche à ce qu'on appelle
pensez,
le pas de vague.
Ouais, vous pensez vraiment qu'on aurait pu éviter cela, vous ?
Ben, disons que moi, je pense, mais je le pense, et beaucoup de gens le pensent dans l'éducation nationale, pour les personnes de terrain et pour les personnes qui ont regardé de près cette affaire. Moi, pour avoir épluché un peu la presse et les livres qui sont sortis dessus, et puis aussi par mon activité syndicale et les informations de terrain que j'ai, c'est-à-dire qu'en fait, sans vouloir jeter la pierre à n'importe qui dans l'éducation nationale au niveau des instances, mais il y a eu une réaction qui a été, je dirais, qui a été là, mais qui a été insatisfaisante sur bien des points, c'est-à-dire qu'on a laissé passer, je pense, du temps, et ce qui a laissé du temps à la rumeur et qui a permis d'arriver à cette tragédie.
Ouais, c'est.
En gros, mais je peux pour vous dire hein, tout simplement, c'est-à-dire que si je ne sais pas si vous connaissez vraiment l'affaire dans le détail,
je m'intéresse depuis bien longtemps à tout cela. En fait, je peux même vous confesser que j'ai vu arriver ça de très loin parce que je m'y suis intéressé par le biais de confrères belges, en fait, qui sont mes confrères. Qui faisait tout ça ne nous rendra pas le Congo et qui faisait striptease avant. Qui à l'époque avait tourné 40 minutes sur Sharia from Belgium.
Ouais, bien sûr.
Sharia for Belgium. Mais 3 ans avant les événements de Charlie Hebdo. Et quand j'ai vu ce documentaire où il n'y a pas de, vous voyez, c'est que une comme striptease, une caméra qui tourne et qui laisse des situations. Aucun parti pris au niveau des auteurs et des réalisateurs. Donc seuls les gens qui sont filmés apportent le point de vue. J'ai d'abord été étonné par, vous en doutez, la violence des attitudes, du discours et de l'obscurantisme développé oui, par ces gens. Mais surtout, je me suis à l'époque beaucoup inquiété de la liberté qui leur était laissée comme ça, d'arrêter les gens dans la rue, de les empêcher de faire ci, de faire ça, d'envahir les mosquées pour crier au scandale envers les chefs des mosquées, les imams modérés, en tout cas, les imams qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et puis je me suis aperçu qu'on avait les mêmes en France, puisque à un moment dans le film, il y avait une rencontre entre les frères de Belgique et les frères de France. Bon. Ouais, et j'ai commencé à donc m'intéresser à tout ça, au courant, parce que c'était que les chiites, les sunnites, d'où venait ce courant, l'Arabie Saoudite. Je me suis aperçu que toutes nos mosquées en France étaient arrosées et même financées par l'Arabie Saoudite, berceau de tout ça. Et finalement, j'ai pris peur. Et puis, j'en parlais autour de moi et personne ne percutait. Limite, on se foutait de moi.
Je comprends ce que vous dites.
Quand Charlie est arrivé, eh bien, ça a secoué tout le monde, mais on n'a toujours pas compris. On continue à trouver sur YouTube tous les films de propagande, tout sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, jusqu'à ce qui est arrivé ensuite, le Bataclan. Et là, à partir du Bataclan, les gens se sont réveillés, en fait. C'est ce pourquoi je vous demande si vous pensez qu'on aurait pu éviter
Vous... Tout ce que vous me dites là, je l'entends, mais si vous voulez, moi, en tant que professeur d'histoire géo en collège et responsable syndical, je ne vais pas pouvoir m'exprimer sur la menace salafiste, les réseaux, des choses comme ça. C'est des choses que je ne connais pas. Ça, c'est plus les RG ou la police. Mais moi, ce que je peux vous dire...
D'un point de vue professeur, moi, je vous
parle. D'un point de vue professeur, disons, quand une situation comme ça se présente, parce que là, elle est hors éducation nationale, mais quand elle se présente à l'éducation nationale, comment l'éducation nationale gère cela? Alors, ça dépend beaucoup des personnes qui sont en première ligne. Ça dépend de l'enseignant, ça dépend de la principale ou du proviseur, vous voyez, des gens qui sont sur le terrain. Mais disons que le souci, par exemple, pour Samuel Paty, c'est qu'en fait, Samuel Paty, c'est parti d'une rumeur qui aurait pu être tuée dans l'œuf dès le début et qui aurait en fait permis d'éviter, je pense, cela. En fait, si on regarde, là, il y a la revue L'Histoire, qui est une revue de vulgarisation scientifique d'histoire, qui a publié un numéro d'octobre sur les professeurs d'histoire à travers les siècles en France, et qui revient sur l'affaire Samuel Paty. C'est une prof de CNRS qui explique, basée sur le rapport de l'inspection générale qui a été demandé par Blanquer pour faire la lumière sur ce qui s'était passé. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est que Samuel Paty, il a fait son cours sur la liberté d'expression à deux classes de quatrième, et qu'en fait, le souci, c'est que dès le lendemain, en fait, on a une mère d'élèves qui a appelé le collège pour se plaindre de ce qu'aurait été le cours, sans savoir véritablement. Elle avait juste un retour d'élève. Et en disant que finalement, en reprochant d'avoir stigmatisé un élève ou la communauté musulmane qui aurait été présente, qui était dans la classe. Sauf qu'en fait, cette histoire-là, elle n'est pas basée sur la réalité. Ça a été un ressenti peut-être d'un élève à un moment donné. C'est juste que Samuel Paty, quand il a fait son cours sur la liberté d'expression, il a voulu illustrer ça par deux caricatures. Alors, je pense que vous les connaissez, les caricatures, c'est notamment celle qui a suivi les attentats de Charlie une semaine après. Vous savez, c'était envoyer le prophète Mahomet sur fond vert et qui disait « tout est pardonné ».
Oui.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de celle-là.
Une
première. Et il la mettait en relation avec une autre. C'est celle qui a notamment posé problème plus tard pour certains parents d'élèves et élèves. C'est envoyer le prophète Mahomet qui était représenté accroupi, nu, et en fait, qui disait « Mahomet, une étoile est née ». Et donc, ces deux caricatures, ils s'en servaient pour expliquer qu'en France, il y avait la liberté d'expression. Et en fait, l'idée, c'était d'expliquer est-ce qu'on est pour ou contre Charlie. Et l'idée, c'était de faire réagir les élèves et de montrer qu'en France, on avait le droit de parler de certaines choses, que c'était inscrit dans l'histoire de France, la caricature, le droit au blasphème. Et en fait, il expliquait cela avec ses supports. Seulement, il a proposé aux élèves, ça aussi, ça pose des soucis dans l'interprétation, qui pourrait se sentir choqué en disant « je vais vous projeter une caricature qui peut choquer. Si vous voulez, vous pouvez sortir dans le couloir ». Et c'est ça qui a posé souci à certains parents d'élèves, parce qu'ils ont estimé que le fait de proposer de sortir dans le couloir, c'était stigmatiser une communauté. Et en disant « vous avez pointé du doigt les musulmans, vous avez demandé qui était musulman ». Pour sortir dans le couloir. Et du coup, comme s'il y a une communauté stigmatisée. C'est faux. Samuel Paty a bien expliqué après dans l'enquête et à la police qu'en fait, il avait juste dit aux élèves que cette caricature qu'il allait projeter pouvait être choquante. Et si les élèves ne le sentaient pas, ils pouvaient aller quelques minutes dans le couloir.
De toute façon, tout ça partait d'un bon sentiment.
Oui, bien sûr.
On le sait aujourd'hui. Mais maintenant, l'interprétation...
Oui, mais après, comment en fait cette idée-là commence à apparaître. Une mère d'élève appelle le lendemain, parle à la principale et dit que son enfant lui a dit qu'il avait été stigmatisé ou qu'il y avait qu'on avait mis à part les élèves musulmans. La principale, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend contact avec Samuel Paty, elle lui demande de prendre contact avec cette mère d'élève pour parler du problème, pour essayer de dénouer la situation. Alors, en l'état, c'est plutôt une bonne idée. C'est-à-dire qu'on va essayer de dépassionner les débats et de parler de tout ça. Et le souci, c'est que là, on a affaire à une logique qui est dans l'éducation nationale depuis déjà un moment et qui s'assimile au pas de vague. C'est-à-dire que quand un parent d'élève appelle ou quand il y a un souci, on est souvent, nous, enseignants, sommés de s'expliquer gentiment ou moins gentiment. Mais en fait, il faut qu'on aille se justifier sur ce qu'on fait et parfois rétablir des choses et affirmer des évidences. C'est-à-dire que Samuel Paty a dû expliquer qu'il n'avait jamais dit « qui est musulman dans la salle et vous pouvez sortir ». Il a juste dit qu'il allait projeter des caricatures qui allaient potentiellement choquer les élèves.
Qui pouvaient choquer, voilà. Et il n'a pas parlé de musulmans.
Eh ben non. Et donc, du coup, si oui, tout ça fait du buzz et ça commence à monter. Le lendemain, il fait le cours avec une autre classe de quatrième. Le même cours se passe, mais... le soir, une élève dit à ses parents il y a eu ce cours-là, ça m'a posé problème. Les parents commencent à dérailler, c'est ce qui va se passer avec ce qu'on a vu dans les vidéos, sauf qu'on s'apercevra que l'élève qui a raconté ça n'était pas présente ce jour-là. Et donc, du coup, elle invente tout ça, sûrement par des bruits d'autres enfants avec qui elle a parlé des cours précédents, qui lui ont raconté, mais elle invente cela. Les parents appellent, essayent de savoir, et là, la mécanique s'enclenche. Or, pourquoi, finalement, c'est ça que je reproche à l'éducation nationale, pourquoi, finalement, cette rumeur n'a pas été tuée dans l'œuf, par exemple, en vérifiant tout de suite que l'élève qui était à l'origine du problème n'était pas en classe, et que donc, du coup, cette parole était inaudible et pas crédible, et les choses s'arrêtaient là. Pourquoi aussi on accepte de recevoir, quelques temps après, le père de l'élève qui est à l'origine de la rumeur, avec une personne qui se prétend représentant des imams de France. Vous voyez ? Pourquoi on fait entrer dans le collège, à quel titre ? C'est aussi le problème, c'est-à-dire que l'éducation nationale veut toujours, comment dire, c'est l'idée du pas de vague, c'est-à-dire on veut dépassionner, on veut acheter la paix sociale, on veut parler, mais il y a des points sur lesquels on ne devrait pas transiger. Et par exemple, demander à un prof de justifier systématiquement ce qu'il fait, ou laisser le temps un peu de rumeur, ou laisser entrer les gens extérieurs à l'éducation nationale qui viennent avec des idées bien précises pour déstabiliser l'institution, non. Et ça crée des ambiguïtés, ça crée un malaise, le temps passe, la rumeur prend, et avec les réseaux sociaux, ça va très très vite.
Oui. Enfin, résultat de toute cette histoire, l'horreur au bout. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment les profs aujourd'hui, et notamment les profs d'histoire, vivent-ils comment vous dire, je me mets à leur place, en fait, et je me dis, aujourd'hui, si j'étais prof d'histoire, quelle attitude aurais-je ? Est-ce que j'aurais peur ? Est-ce que je me sentirais frustré de ne pas pouvoir évoquer certaines parties de notre histoire, une histoire contemporaine, mais tellement importante à évoquer.
C'est très variable. En fait, et c'est aussi pour ça que, en fait, moi, je me suis beaucoup exprimé sur les réseaux ces derniers temps. C'est qu'en fait, cette question de l'hommage qui a été proposée par le ministre là le vendredi 15, veille de l'assassinat, puisqu'en fait, la commémoration tombait un samedi. Donc, comme le ministre voulait qu'on fasse quelque chose au niveau scolaire, il fallait faire quelque chose le vendredi. Mais cette question de l'hommage a beaucoup divisé les salles des profs. Oui. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est aussi, vous me posez la question de comment un enseignant d'histoire se positionne par rapport à ça. Au-delà des enseignants d'histoire, là, beaucoup d'enseignants se sentent mal par rapport à ça, parce qu'il y en a certains qui ont peur, il y en a qui ont peur, qui sont parfois en poste dans des établissements où il est compliqué de parler de ces choses-là, et ils ont le sentiment que s'ils abordent, comme on leur demande en haut lieu ces sujets, ils vont peut-être être contestés. Est-ce qu'on va vraiment les soutenir derrière s'ils sont vraiment contestés ? Il y a cette incertitude, hein, parce qu'il y a les discours ministériels et puis il y a la réalité du terrain. Moi, j'en ai des remontées de personnes qui ont été confrontées à des situations graves, hein, que la rumeur sur Samuel Paty, mais qui ont été confrontées à ça. Ils ne se sont pas sentis soutenus par leur hiérarchie. Donc, vous voyez, il y a ceux qui ont peur, qui se disent « si je fais quelque chose, est-ce que je serai soutenu ?» S'il y a une contestation, donc peut-être qu'il vaut mieux que je m'abstienne. Il y a ceux qui sont tétanisés encore un an après, c'est-à-dire qu'ils n'ont toujours, ils sont toujours sidérés par ce qui s'est passé. Et ça devient quelque chose même qu'ils n'arrivent pas à évoquer. Ouais. Moi, vous savez, je suis tuteur depuis de professeur histoire-géo qui commence depuis plusieurs années. L'année dernière, j'avais une élève, vous voyez comment je parle, une professeure stagiaire que j'encadrais, et pour qui c'était très difficile d'en parler. Et le simple fait d'en parler lui faisait monter les pleurs tout de suite. Donc, vous voyez, des gens qui ont peur, des gens qui sont tétanisés, qui n'arrivent pas à en parler, des gens aussi qui, parfois, sont surchargés de travail de par la condition enseignante aujourd'hui et leurs problèmes du quotidien, et qui, du coup, finalement, n'en parlent pas. Et puis, il y a aussi ceux qui s'en moquent, parce qu'il y en a, malheureusement. Ça va vous choquer peut-être que je vous le dise, oui, hein, oui. Mais il y en a aussi. Hein. Vous savez, il y a une journaliste de Charlie Hebdo qui m'avait interviewé il y a quelques temps là, pour une enquête qu'ils avaient fait et qui est parue il y a 15 jours, je lui avais dit la même chose, c'est-à-dire qu'il y a, la plupart des gens sont très marqués dans l'éducation nationale par cet assassinat. Il y a ceux qui n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur et qu'ils exercent dans des endroits où c'est compliqué de parler de tout ça. Il y a ceux qui sont encore sidérés et qui n'arrivent pas à en parler parce que ça devient presque un tabou. Et puis, il y a ceux finalement aussi qui, quelque part, parce qu'ils sont dans un établissement où ça craint pas trop, où finalement les choses peuvent se faire, où les choses ont repris leur cours. Et moi, c'est ce qui me dérange aussi, parfois.
Oui, je comprends.
Parce que quand on est dans une salle des profs et qu'on... Vous voyez, moi, je vous cite mon exemple personnel. Moi, j'ai essayé de pousser pour un hommage plus poussé, qu'on en parle régulièrement. Parfois, ça prend pas tout de suite. Hein. Vous avez des gens qui n'en parlent pas parce que c'est trop violent pour eux, parce qu'on estime qu'on n'est pas forcément qualifié et on est un peu divisé là-dessus.
C'est trop violent pour eux et j'ai envie de vous dire, Cédric, que malheureusement, tous ces profs ne se sentent pas protégés, suivis par leur hiérarchie comme ils se devraient. Et donc, on peut aujourd'hui se mettre à leur place. Est-ce que je vais faire le ou la héros, hein ? Est-ce que je vais afficher en tant que prof mes convictions, d'abord d'homme ou de femme, et ensuite de professeur ? Est-ce que je vais afficher ma conscience citoyenne et ma conscience de justement de prof qui malgré tout doit enseigner à tous ses enfants quels qu'ils soient sans faire de distinction.
Vous savez,
qu'est-ce que je risque aujourd'hui si je fais ça? Eh bien, je risque peut-être pas Samuel Paty.
Ça dépend où.
Mais beaucoup de profs aujourd'hui dans certains collèges ou lycées risquent beaucoup à faire ça.
Ah oui, et puis moi, je leur jette absolument pas la pierre, hein, parce que c'est très compliqué. Moi, je le vois au niveau des remontées syndicales. Hein. Je fais partie d'un syndicat qui s'appelle Action et Démocratie, qui est un syndicat minoritaire, mais où on a des choses comme ça qui nous remontent. Et c'est compliqué aussi pour des collègues de se positionner. Mais je dirais, moi, quand même, que c'est après, chacun se positionne aussi en tant qu'être humain, de ce qu'il pense pouvoir dire, de ce qu'il se sent en capacité de dire. Mais j'aurais voulu qu'il y ait, au niveau de l'administration, au niveau du ministère, quelque chose qui soit plus fort, notamment en cette rentrée. Moi, j'étais assez choqué. Alors, vous pourrez me dire votre avis là-dessus. Je vais vous raconter comment j'ai vécu.
Alors, vous savez quoi ? On va faire une petite pause avant que vous me disiez quoi, parce que je n'ai pas envie de vous couper au milieu. On laisse passer un court instant et puis on revient tout de suite, Cédric. Okay. Hein, vous restez avec moi tout de suite.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
23h30 sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Cédric, vous vouliez donc évoquer ce que vous auriez aimé voir en cette rentrée, en tout cas lorsqu'on a dû rendre hommage, c'était la date anniversaire il n'y a pas longtemps, donc de la mort de Samuel Paty.
Oui, ce que je voulais vous dire, en fait, et pour revenir, pour coller à l'actualité récente, hein. Donc Samuel Paty a été assassiné le 16 octobre de l'an passé. Le ministre nous a annoncé, à nous enseignants, à peu près une semaine avant, qu'on allait rendre un hommage solennel le vendredi 15. Donc moi, ce qui m'a assez choqué, comme beaucoup d'autres, hein, c'est le timing. C'est-à-dire qu'en fait, à peu près une semaine avant, on nous annonce que cette date-là a été retenue par le ministère pour une journée d'hommage. Le timing m'a paru assez choquant. J'aurais bien aimé, par exemple, que cette date d'assassinat de Samuel Paty, on la connaît. Oui. Elle est passée dans les journaux et tout. Je veux dire, il s'est passé un an. au ministère, j'aurais bien aimé, mais sûrement que ça a été le cas, hein, j'aurais bien aimé que quelqu'un se dise bah, « Tiens, on va faire passer à tous les rectorats un mot pendant le mois d'août pour que dès la journée de pré-rentrée, vous savez que les enseignants, ils rentrent toujours un jour avant les élèves en septembre pour faire le point sur comment ça va se passer la rentrée du lendemain, pour que le jour de la pré-rentrée, les recteurs fassent passer à chaque chef d'établissement un mot comme quoi le souvenir de Samuel Paty sera évoqué lors de cette pré-rentrée, ce qui est quand même la première rentrée d'année scolaire sans Samuel Paty après cet événement, et que le ministre a prévu, peut-être dans des modalités qui seront définies plus tard, mais qu'il ait déjà prévu une journée d'hommage au mois d'octobre. Ça, ça aurait été pas mal parce qu'on aurait pu le préparer. Parce que là, nous balancer ça une semaine avant, en plus l'apprendre plus ou moins par BFM, parce que c'est ça, moi, hein, l'apprendre par BFM, en gros, avant de l'apprendre par ma boîte académique professionnelle. Et ça, ça pose quand même un souci. Et ça nous aurait permis de nous retourner, de construire quelque chose de pas précipité, je dirais d'assez digne, et de faire quelque chose qui aurait rendu honneur à sa mémoire. Ça, ça me pose déjà un problème. Et puis le deuxième souci, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais les conditions de l'hommage étaient très floues. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a eu enfin le mail officiel, on nous demandait en fait, chaque chef d'établissement a reçu un mail comme quoi il fallait faire un temps d'hommage. Ça pouvait être une minute de silence, ça pouvait être autre chose, ça pouvait être aussi des cours sur la liberté d'expression, mais il n'y avait pas de cadrage. C'est-à-dire qu'en fait, ça pouvait être laissé à discrétion de chaque établissement. Mmh. Moi, par exemple, dans mon académie, il y a des collèges qui l'ont fait à 9h, la minute de silence, d'autres qui l'ont fait à 11h, d'autres qui l'ont fait à 14h. Et c'est pas très républicain, je veux dire, quand on se sent, on aurait aimé pouvoir se sentir tous unis à ce moment-là, oui, nationalement. Oui, vous voyez ce que je veux dire ? Même au-delà peut-être de l'école, mais rien que déjà au sein de l'école, savoir que, par exemple, tous à 11h, dans tout l'établissement scolaire, il y avait un temps qui s'arrêtait, une minute de silence, des choses comme ça. Vous voyez, cette espèce de cadrage un peu lâche, moi, ça m'a fortement dérangé. J'ai eu l'impression, à un moment donné, mais je dois me tromper, parce que là, je pense qu'en tant que prof d'histoire, de base, j'étais assez énervé par tout ça depuis le début, et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est juste pour dire qu'il y a un hommage ce jour-là, presque un coup de com', quoi. Alors, je n'irai peut-être pas jusque-là à la réflexion, parce que je ne vais pas accuser le ministre d'aller jusque-là. Il ne saurait quand même pas aller là. Mais j'aurais aimé une initiative plus forte et plus cadrée pour qu'en fait, toute la communauté des professeurs et de l'éducation nationale en général, et les élèves, hein, parce qu'ils sont demandeurs de tout ça, hein, les élèves. Hein, ça on n'en parle pas, mais c'est vrai qu'ils sont très demandeurs de ça, d'explications, de mise en contexte, qu'on soit tous à la même heure et qu'on rappelle sa mémoire, et si possible avec un petit rappel des faits, parce que moi, les cours que je fais en éducation civique, plutôt EMC, depuis l'année dernière, je m'aperçois quand je reviens sur l'affaire que malgré tout le buzz médiatique qu'il y a eu, les élèves n'ont toujours pas compris ce qui s'était passé, et parfois me sortent 10 versions différentes.
Ouais, ouais. Donc, ouais, il y a encore du boulot de ce côté-là, pour que tout le monde comprenne bien ce qui s'est passé, parce qu'il serait tout de même important que les enfants comprennent ce qui s'est passé, parce que demain c'est eux.
Oui, mais disons que moi, quand je commence mon cours, vous voyez, je mets la photo de Samuel Paty sur mon tableau blanc, et je leur demande, est-ce que vous savez qui c'est ? Tout le monde sait, hein. Oui. Tout le monde sait. Mmh. Par contre, après, je leur dis, racontez-moi l'histoire. Ils me racontent l'histoire telle qu'ils l'ont entendue à la maison, ou qu'ils pensent la savoir, et là, j'ai des versions extravagantes. Mais je ne leur en veux absolument pas, parce qu'en fait, j'ai comme ça la parole brute, et c'est après aux professeurs, et là vous parlez des professeurs d'histoire tout à l'heure, de mettre en contexte, d'expliquer, revenir sur les faits, les expliquer, pour pouvoir expliquer après ce que c'est que la laïcité en France, et comment il faut, pour qu'ils puissent comprendre que c'est une chance et pas une contrainte. Mmh. Et ça, c'est un vrai boulot, hein, et au long cours.
En tout cas, merci pour votre appel ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Cédric. On pense ce soir tout particulièrement à la famille de Samuel Paty, parce que il y a une épouse, il y a des enfants, et c'est souvent oublié, ça aussi,
parce c'est oublié. Après, en plus, c'est une de ce que j'ai su, moi, hein, par les quelques réseaux que j'ai, une famille qui a voulu rester discrète, et donc ça, il faut aussi le respecter et pas instrumentaliser sa personne. C'est-à-dire les hommages que l'on rend, moi, j'ai qu'il soit digne, qu'on n'oublie pas sa mémoire, qu'on la fasse vivre par différents projets, actions, qu'on ne l'oublie pas. Mais c'est vrai, en essayant de rester digne.
Mais c'est resté très digne, de toute façon. Et je pense que ça le restera. Merci, en tout
cas,
Cédric.
Notamment du côté des enseignants d'histoire-géographie. Et c'est vrai que c'est une communauté qui a été touchée. Et on espère continuer à la faire vivre encore longtemps, cette mémoire de Samuel Paty.
Oui, mais on continuera. Et puis, beaucoup des personnes qui nous écoutent ce soir sont derrière ces professeurs, croyez-moi.
Merci.
Vous souhaite une bonne soirée, Cédric, et merci pour votre intervention.
Et merci à vous pour votre écoute.
Je vous en prie. Au revoir.